Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à M. André Vaucher. On ne présente pas André Vaucher, simplement quelques mots en introduction à cette conférence pour, d'une part, le remercier de s'être rendu disponible pour cette conférence. Nous savons combien cette maison lui est chère, combien la bibliothèque lui est chère aussi, et combien aussi il a soutenu le redémarrage de la revue des études franciscaines, combien aussi il s'est investi dans le travail autour des sources franciscaines, dont il va faire l'introduction. Sans compter, je dirais, tout ce qui a marqué votre carrière, le professeur d'histoire médiévale à Paris 10 Nanterre, la direction de l'école française à Rome, qui a été un moment important avec une très grande enquête qui a été lancée à ce moment-là, si j'ai bien compris, et qui a marqué beaucoup. Et vous êtes membre de l'Institut. Donc, je veux dire, on n'a pas grand-chose à ajouter, nous, là-dessus. C'est magnifique, c'est beau. L'occasion de votre conférence, c'est la publication de votre livre, une somme magnifique sur l'histoire de François, l'interprétation, j'allais dire presque... Mais, je vous rappelle, c'est un breviloquium par sa densité, sa synthèse et la force et la modestie des lignes que vous avancez dans l'interprétation. C'est vraiment magnifique. Donc, je ne vais pas insister davantage, vous laissant le plaisir d'écouter André Vaucher et d'apprécier, j'irais justement, le fruit de tout ce long travail, cette longue méditation sur l'histoire et sur la vie de François en particulier, pour goûter ses paroles dans cette conférence qu'il nous a proposée, François, entre histoire et mémoire, une reconsidération. À vous la parole.
Merci beaucoup, Père, et pour votre invitation d'abord et pour votre accueil. Et merci à tous ceux qui sont venus m'écouter. Je suis très impressionné par ce public nombreux et sympathique que vous constituez. Alors, je vous parlerai évidemment de ce livre dont on vient de vous dire quelques mots, qui est paru en avril dernier et qui, je dois le reconnaître, est pour moi quelque chose de très important, non seulement parce que j'ai passé pas mal d'années à l'écrire. Je peux dire que même que j'ai passé, si je prends le point de départ absolument initial, une quarantaine d'années. Et parce que j'exagère un peu, mais à peine, mon premier article où je parle de choses franciscaines est de 1968. Oui, le livre est paru en 2009. Alors, je ne dis pas que je n'ai fait que ça entre-temps. J'ai fait des thèses, des colloques, des publications diverses, etc. Mais j'ai tourné autour de François pendant une quarantaine d'années. Dans les années 80 et quelques, 85-6, j'avais même écrit déjà une sorte de premier jet qui m'a été commandé à l'époque par un éditeur, lequel par chance a fait faillite, et donc le livre n'est pas allé plus loin. Et puis quand j'ai eu le temps de m'y remettre à partir du moment où j'étais en retraite, après la fin justement de ma direction de l'École française de Rome, je suis revenu en France en 2003, puis en 2005, une fois réinstallé, je me suis dit, bon, ce Saint-François, il faut quand même l'écrire un jour ou l'autre, sinon ce sera trop tard. Et bien, quand je m'y suis mis et que j'ai relu les 200 pages que j'avais écrites 20 ans plus tôt, je les ai déchirées, ou à peu près, parce que... je me suis rendu compte que, eh bien, heureusement que j'avais pris du retard et que je n'avais pas fait ça plus tôt. Ce qui tout de suite vous met en face d'un problème, et qui est l'évolution rapide de la recherche. Parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Alors, on est tout à fait, l'opinion publique est tout à fait disposée à admettre qu'en chimie ou en biologie, les choses évoluent de façon foudroyante. Bon, elles évoluent plus lentement dans le domaine des sciences humaines, c'est sûr qu'on ne fait pas des découvertes tous les matins, Mais elles changent, elles évoluent aussi, ces sciences. Pas ? Et grâce au fait que j'ai attendu, peut-être un peu longuement, mais enfin, pas trop quand même, j'ai pu engranger la moisson d'une saison d'études qui a été extraordinairement intense dans le monde entier, mais plus spécialement en Italie, évidemment, à partir des années 70, grosso modo. Il y a eu un renouveau extraordinaire des études franciscaines en Italie, mais pas seulement, en Allemagne, aux États-Unis, en France. Bon, une série d'éditions de textes nouvelles, de reconsidération de quantité de choses par les historiens, de réflexions en commun lors de colloques, en particulier les fameux colloques d'assises de la Société internationale d'études franciscaines. Ils sont réunis chaque année à partir de 71, je crois. Bref, tout un effort de meilleure compréhension, d'approfondissement de tout ce qui concernait François, le franciscanisme, qui, au bout de 30-40 ans, apportait quand même des fruits importants. Et il m'a semblé que le moment était venu, justement, de faire la synthèse de ces recherches qui, sauf exception, n'étaient pas connues du grand public, parce que c'était souvent des travaux d'érudition ou des colloques un peu confidentiels. Voilà. Et comme j'avais eu la chance de passer une partie de ma vie en Italie, au total 18 ans, de travailler beaucoup avec les franciscains à Rome, à Assise, bien, je baignais là-dedans et je crois que j'étais peut-être bien placé pour essayer de faire la synthèse de ces travaux, encore une fois, auxquels je dois beaucoup. Voilà, donc c'est pour situer un peu cet ouvrage et dire que finalement la Providence a voulu qu'il soit retardé. C'est comme les vendanges tardives, vous voyez. On dit que ce sont parfois les meilleurs vins, j'en sais rien, mais en tout cas, dans mon cas, je crois que ça a été bénéfique d'être obligé d'attendre, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les choses évoluent, et il y a des choses qu'on pouvait écrire il y a 30 ou 40 ans, et qu'aujourd'hui on ne peut plus écrire. Par contre, il y a d'autres qu'on ne savait pas, ou qu'on ne comprenait pas, et qu'on comprend maintenant. Voilà, alors, quand on publie un livre sur François d'Assise, il faut commencer par se justifier, parce qu'il en existe déjà tellement, qu'on a un petit peu, je dis pas honte, mais enfin quelques inquiétudes à l'idée de rajouter un ouvrage de plus à une bibliographie invraisemblable. Quelqu'un m'a fait la recherche pour moi sur Google, il a trouvé 1225 biographies de François d'Assise sur Google, en français. Donc, en faire une de plus, était-ce bien nécessaire? Alors, si je l'ai fait, évidemment, c'est que je croyais que c'était nécessaire. Parce qu'il existe énormément de travaux sur François d'Assise, mais beaucoup sont des essais. Vous avez par exemple, des essais n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Regardez, le livre par exemple de Christian Bobin, Le Trébat, bon, c'est un essai formidable. En tout cas, il a une idée, il l'a creusé, mais il n'a développé évidemment qu'un aspect, mais c'est magnifique, ça apporte du nouveau, c'est, même pour l'historien. Ou bien ce sont des méditations spirituelles, ce qui peut aussi, évidemment, n'est pas dépourvu d'intérêt. Personnellement, étant donc historien de profession, j'ai cherché à faire surtout un livre d'histoire. Et je m'explique tout de suite sur le titre, parce que certains m'ont posé des questions, pas ici, mais en d'autres lieux. Donc pourquoi vous l'avez appelé François d'Assise et pas Saint François d'Assise? Je ne mets absolument pas en doute la sainteté de François. D'ailleurs, je parle beaucoup de sa sainteté, de ses charismes, de son expérience spirituelle, donc c'est pas un François laïcisé ou sécularisé que je vous ai livré, mais j'ai préféré éviter le mot saint dans le titre, parce que j'ai bien voulu montrer que je faisais un livre d'histoire, et pas un livre, théologique ou spirituel. Il n'y a aucune connotation négative pour moi, mais chacun son métier. Alors, si on en revient au genre de la biographie historique, eh bien, il n'y avait pas tellement de choses sur le marché français. Il y a un livre de quelqu'un que j'ai bien connu, qui est un livre intéressant, de Raoul Manselli, qui est paru en italien en 1982, traduit assez vite en français, qui malheureusement n'est pas aussi parfait qu'on aurait pu le penser. Manselli est un immense savant, il savait tout sur François, sur le franciscanisme. Mais il a écrit ce livre à la fin de sa vie, un peu rapidement, et alors ses disciples après l'ont complété, l'ont enrichi, il y a une nouvelle édition, bon c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on aurait pu rêver. Voilà. Et puis surtout, dans beaucoup d'ouvrages concernant François d'Assise, j'étais frappé par le caractère un peu répétitif de beaucoup de ses biographies, et dû à un usage, discutable des sources, et en particulier des sources hagiographiques. Parce que nous connaissons François essentiellement à partir des sources hagiographiques, c'est-à-dire de vie de saint, de vie de François qu'on a écrit, ou de traités sur ses miracles, ou sur traités spirituels relatifs à François, qui ont été écrits en grand nombre dans les 50 ou 60 années qui ont suivi sa mort, ou disons dans le siècle qui a suivi sa mort encore plus. Et ces sources hagiographiques, elles ont évidemment un caractère très spécial. C'est pas la même chose qu'une chronique. Une chronique raconte les faits comme ils se sont passés. L'hagiographie vise à exalter un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, et à présenter ce personnage comme pleinement rempli de Dieu. Donc c'est pas la même chose qu'une biographie. Alors, dans les hagiographies, c'est un genre littéraire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, il y a des codes, etc. Et donc, vis-à-vis de ces sources hagiographiques, qui sont les principales sources pour François, en dehors des écrits même de François, bien sûr, eh bien, il y avait deux attitudes chez les gens qui avaient étudié François d'Assise avant. Ou bien ils prenaient ces sources pour argent comptant, tout ce qui était dans les récits était vrai, et à ce moment-là, on risquait de tomber dans la naïveté ou l'attendrissement un peu facile. Ou bien ils disaient, ces sources hagiographiques, c'est très gentil, ça nous témoigne de l'admiration qu'avait suscité François, mais il n'y a rien à en tirer de point de vue historique, parce que ce sont des textes qui ne sont pas fiables. Donc les deux attitudes, la première, on prend tout et on croit tout, l'autre c'était on élimine tout, et même des gens tout à fait éminents, comme le père Esser par exemple, qui a été le premier à donner une bonne édition des écrits de François en 1973, Esser avait fini par conclure que la géographie ne nous apprenait rien sur François, mais nous informait seulement sur les interprétations dont il avait fait l'objet après sa mort. C'est partiellement vrai, mais je ne suis pas d'accord quand même avec ce jugement trop sévère, trop rude. Je crois que la géographie a un sens, mais à condition évidemment d'en faire une approche prudente, une approche fondée sur une méthode sérieuse. Parce que beaucoup de biographes se contentaient de picorer des passages, des citations. On considérait les vies de François du XIIIe siècle comme une espèce de mine de citations, une carrière où on venait comme ça, piocher, on prenait un passage, et puis on combinait ces sources entre elles, et on faisait, excusez-moi, un patchwork. Mais, au point de vue historique, ça ne tient pas la route, parce que ces biographies, leurs auteurs avaient, bien entendu, un projet cohérent. Chaque biographe de François avait son François, son image de François, ou bien voulait répondre ou compléter une biographie antérieure. Et donc, s'il racontait un épisode, c'était pas simplement pour faire pittoresque ou joli, c'est qu'il avait une idée à la tête. Donc mélanger tous ces textes comme s'ils étaient équivalents, écrits par le même auteur, simplement à la gloire de François, c'était évidemment faire preuve d'une grande naïveté, et donc ça ne pouvait pas conduire à grand-chose pour la compréhension de François. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'il y avait encore la place pour un François, une biographie de François d'Assise, à condition aussi de ne pas prétendre tout dire, parce qu'il y a aussi une grande tentation pour le biographe, quel qu'il soit, qu'il écrive sur Louis XIV ou sur François d'Assise, c'est de faire un récit absolument continu, un récit bouclé, fermé sur lui-même, comme si on savait tout. Or, il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne savons pas tout, même si François est un des personnages les mieux documentés, finalement, avec Saint-Louis et Frédéric II, un des mieux documentés du XIIIe siècle. Il y a des blancs, il y a des vides, il y a des épisodes que nous ne comprenons pas ou que nous ne savons pas bien situer chronologiquement, même bien encore. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma première partie esquisse d'une biographie. Esquisse parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Alors la grande tentation du biographe, c'est de remplir ces blancs soit en inventant purement et simplement, soit en reprenant des traditions non vérifiées. À ce moment-là, on tombe facilement dans la légende au mauvais sens du terme. Vous voyez ? Ne serait-ce que, par exemple, c'est tout à fait étonnant, on ne sait pas grand-chose sur la prédication de François en Italie et de ses premiers compagnons dans les années 1210-1220, enfin, avant son départ là, en croisade en Terre Sainte et en Égypte. Alors que pour l'Angleterre et l'Allemagne, on a des chroniques faites par des franciscains du temps contemporain sur les débuts de l'ordre en Allemagne avec Jourdain de Giano, en Angleterre avec Thomas d'Ecclestone, on n'a rien d'équivalent sur le début de l'ordre franciscain en Italie, alors que c'est là qu'il a eu le plus grand succès et qu'il est né. Donc, on a toutes sortes de traditions en Italie. Vous ne pouvez pas aller partout où vous allez. Le couvent franciscain du lieu a été fondé par François d'Assise lui-même. C'est comme Garibaldi, il est passé partout, il a fondé tous les couvents d'Italie. C'est pas possible. Il est allé à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas vrai, mais ça fait rien. Bon, donc on ne prête qu'aux riches et on fait de François un personnage, là encore, un peu mythologique. Ceci n'est pas du tout pour diminuer sa grandeur, hein, c'est mais pour dire qu'on a du mal, même pour des choses aussi évidentes que la biographie, au sens le plus chronologique du terme. On a parfois du mal à y voir clair et il faut admettre qu'il y a des blancs, qu'il y a des vides et il ne faut pas faire comme si on comprenait tout. Et d'autre part, François avait certainement des contradictions intérieures, des contradictions personnelles qu'il a vécues douloureusement, plus ou moins douloureusement, mais il ne faut pas s'imaginer non plus qu'il a eu... Bien sûr qu'il a eu une intuition fondamentale, une révélation même, on peut le dire. Lui a considéré qu'il était inspiré par Dieu, il le dit dans son testament. Mais de là à avoir tout compris dès le début, non. Voilà. Enfin, il m'a semblé qu'il fallait faire prévaloir une autre conception de la biographie que celle tout à fait classique qui va de la naissance à la mort du héros. Et c'est pourquoi j'ai adopté un plan tout à fait hérétique. J'ai passé ma vie, quand j'étais professeur, à enseigner à mes étudiants qu'il fallait faire des plans en trois parties. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait un plan en quatre parties. Donc là aussi, je dois me justifier de cette approche. Alors, pourquoi quatre parties ? Bien, parce qu'il m'a semblé que... Bon, il fallait faire une première partie biographique... même si encore une fois on ne sait pas tout, il faut quand même commencer par camper le personnage et dire ce que l'on sait de sa vie, du contexte dans lequel il a vécu, etc. Mais ma biographie, de façon un peu paradoxale, ne va pas jusqu'à la mort, elle s'arrête au testament, parce que le testament que François a écrit ou dicté quelques mois avant de mourir, donc nous sommes en 1226, récapitule en quelque sorte la vie historique de François et son expérience spirituelle. Donc il m'a semblé que c'était un texte bilan et qu'après on entre dans la période où déjà avec la mort se profile la construction d'un profil de sainteté, d'un profil de saint. Et c'est pourquoi j'ai étudié la mort, je l'ai intégrée dans une deuxième partie que j'ai appelé « Mort et transfiguration de François » 1226-1253, parce que justement la mort marque un passage de l'homme François au saint. Et non pas qu'il ne fût pas considéré comme un saint avant, mais de son vivant, mais enfin, il y a, à partir du moment où il est mort, eh bien, des forces qui jouent pour le faire reconnaître comme saint et définir un certain profil de sainteté, une certaine image de saint. Il y a toutes sortes de formes de saints, il y a des saints guérisseurs, il y a des saints fondateurs d'ordre, il y a des saints, tout ce que vous voulez, des saints charismatiques. Eh bien, il fallait choisir. François avait toutes sortes de possibles, de virtualités en lui-même. Eh bien, après la mort, il n'était plus là pour choisir, d'autres ont choisi pour lui, la papauté en particulier, ses frères, le frère Élie qui dirigeait alors les frères mineurs après la mort de François, etc. Oui. Donc, depuis sa mort jusqu'à sa canonisation, et jusqu'à ce que l'ordre franciscain, à partir de 1230, donc très rapidement, s'éloigne, non pas de l'idéal franciscain, je suis tout à fait contre l'idée de la trahison, etc., mais à partir de 1230, disons, l'homme François passe au second plan. L'homme François est très vite perdu de vue, c'est ça qui m'a frappé. Ses écrits, par exemple, sont très peu diffusés, très peu connus, même déjà à cette époque, quelques années après sa mort. Et au fond, pour beaucoup de frères, François est simplement celui qui a fondé l'ordre des frères mineurs, même si les compagnons, un certain nombre des compagnons, continuent, eux, à rester fidèles à une autre image, qui est celui de l'homme François qu'ils ont connu. Et certains réagissent justement contre cette canonisation qui, non pas le fait de la canonisation, mais le fait que, en canonisant François, on l'a cadré d'une certaine façon, on l'a présenté comme un fondateur d'ordre, on l'a présenté comme le sauveur de l'Église menacée à l'époque par les hérétiques et par l'empereur Frédéric II, et donc on le présente plutôt comme une espèce de recours providentiel pour l'Église face aux difficultés du temps. Donc certains protestent ou refusent cette vision et commencent à ce moment-là les divisions. Alors c'est justement pour ça qu'il y a tant de vies, c'est qu'on commence à écrire des vies en sens divergent. Il y en a qui écrivent dans la ligne, disons, de la canonisation par Grégoire IX, et puis d'autres qui font entendre une autre petite musique, disons, attention, c'est pas tout à fait ça. Nous l'avons bien connu et nous pouvons dire que François, c'était autre chose que ce qu'on en dit ou ce que l'on met en avant. Et puis, parmi ces défenseurs de la mémoire, justement, c'est là qu'on trouve le problème d'histoire et mémoire, parmi ces défenseurs de la mémoire, il y a évidemment Frère Léon, dont les fiches vont alimenter toute une production hagiographique jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et puis, Claire, n'oublions pas que Claire vit jusqu'en 1253 et va alimenter, va constituer avec Saint Damien un bastion de la mémoire. Voilà, contre les réagissants, justement, contre toutes les déviations ou les interprétations qui lui paraissent contradictoires avec le souvenir, la mémoire qu'elle avait gardée de son maître et ami. Alors la troisième partie est donc, je l'ai intitulée « Images et mythes de François d'Assise du Moyen-Âge à nos jours ». Alors là, nous quittons, disons, la biographie ou les biographies pour nous intéresser à l'image de François, ou aux images de François. C'est justement ça qui est passionnant, c'est qu'il y a dès le début des images de François, tout le monde ne l'a pas vu et interprété, compris de la même façon. Donc c'est cette diversité des images qu'il faut saisir donc, dès les premiers temps, dès les premières vies. Et il m'a semblé d'autre part qu'on ne pouvait pas, dans une biographie, alors là je ne suis pas toujours, disons que c'est une conception peut-être un peu nouvelle, mais je me pense que dans le cas de François, en tout cas, on ne peut pas dissocier la vie même de François, les interprétations immédiates à chaud, disons, tout de suite après sa mort, et puis ce qui a suivi. C'est-à-dire que François est un personnage qui a vraiment marqué énormément ses contemporains, fasciné ses contemporains, et donc les images de François, les idées qu'ils se sont faites sur lui, de lui, font partie intégrante de cette histoire. Ce n'est pas seulement une postérité, plus ou moins tardive. Cette image de François, elle se construit dans sa dimension historique. Je pense que une vraie biographie historique doit intégrer aussi cette dimension que les historiens appellent d'un mot un peu... Moi, allemand, Nachleben, ça veut dire la survie, oui, la survie de la mémoire de François à travers les siècles. Alors, survie qui est plus ou moins intense, au 13e, première moitié du 14e, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, très fort, et qui est au cœur de toutes sortes de disputes, de batailles internes ou externes à l'ordre franciscain. Et puis ensuite, il y a des reprises, il y a des. Sans arrêt des alternances de retombées, de renouveau, la mémoire de François réaffleure périodiquement, et chaque fois elle fait l'objet d'une nouvelle relecture, d'une nouvelle interprétation. Que vous preniez l'époque, par exemple au XVe siècle, de l'observance, il y a une redécouverte d'une certaine dimension du franciscanisme qui avait été perdu de vue au XIVe. Ensuite, on a la réforme des Capucins qui elle-même représente ou remet en avant d'autres aspects de François qui avaient pu être négligés. Et puis vous avez aussi les gens qui commencent à réagir contre François. À partir du XVIe siècle, il y a toute une réaction chez les protestants d'abord, qui contestent, non pas François, Luther a eu quelques paroles très d'estime pour François, mais le culte dont il fait l'objet, et qui reproche aux franciscains en particulier de le considérer comme un autre Christ, fameuse expression alter Christus, un second Christ. Alors ça fait hurler Luther, il dit le Christ il n'y en a qu'un, et donc François ne peut pas être un second Christ. Et donc des polémiques très violentes, moins contre François lui-même que contre son ordre, ou c'est les ordres qui s'inspirent de lui. Et puis ensuite au XVIIe, XVIIIe siècle, surtout au XVIIIe, avec les philosophes, le souvenir de François tombe au plus bas. François est considéré comme fondateur d'un ordre de paresseux, de gens exaltés. Les philosophes sont très durs sur les frères et sur François de Voltaire à Diderot et à l'encyclopédie. On dit qu'il aurait mieux fait de se marier, etc. Enfin bref, il y a toutes sortes de considérations. Au lieu de construire des femmes en neige, comme racontent des femmes et des enfants en neige, comme racontent certains épisodes de la compilation d'Assise, il aurait mieux fait de se marier, dit Voltaire. Voilà, donc il y a toute une contestation du franciscanisme à ce moment-là, dans le cadre de la philosophie des Lumières, le présentant donc comme un personnage finalement plus exalté que sympathique et à tout prendre pas tellement intéressant. Et donc on est vraiment au plus bas, à la fin du 18e, début 19e, et tout d'un coup se produit un retournement. Alors là aussi c'est très intéressant, pourquoi l'image de François se modifie? Eh bien elle se modifie avec le romantisme. On redécouvre François à partir des années 1820-30, en Allemagne d'abord, puis ensuite en France avec Ozanam. Il y a véritablement un retour d'abord. On découvre enfin, on retrouve enfin ses reliques. En 1818, on fait des fouilles parce qu'elles avaient été perdues. Je reviendrai là-dessus. Depuis le XIVe siècle, on ne savait plus où elles étaient. On les avait tellement bien cachées sous la basilique Saint-François, de peur qu'elles ne tombent entre les mains des autres, qu'on a fini par ne plus savoir où elles se trouvaient. Donc on les retrouve finalement. Et donc ça va donner naissance à un pèlerinage, ce qui n'était pas le cas depuis. Enfin, il y avait un pèlerinage, bien sûr, il y avait des fêtes, mais elles étaient assez locales, régionales. Cela va relancer Assise comme but de pèlerinage, et surtout après 1860, avec les chemins de fer, il y aura, comme pour Lourdes, oui, l'apparition de Lourdes contemporaine de la diffusion des chemins de fer, et deux choses n'ont évidemment rien à voir, mais en même temps ça a été très utile pour les pèlerinages, puisque ça a permis de drainer les foules vers les sanctuaires, ce qui n'aurait pas été possible auparavant, et Assise devient véritablement un haut lieu de pèlerinage, de spiritualité au niveau international, pas seulement italien ou ombrien. Alors le romantisme le redécouvre, et du coup on le part de toutes les vertus, on fait de lui un nouvel Orphée, l'homme qui a redécouvert le sentiment de la nature, l'homme qui a été à l'origine de la Renaissance par sa relation avec le monde, les animaux, son lyrisme, bref. On en fait un personnage absolument clé dans l'histoire de la culture occidentale. Alors les travaux historiques commencent à démarrer, surtout du côté protestant, à partir des années 1850-60 en Allemagne, avec un nommé Karl Hase, qui écrit un livre très intéressant d'ailleurs, dans lequel il voit dans François d'Assise l'ancêtre de la réforme protestante. Enfin, c'est l'homme un homme évangélique. Il n'a pas été jusqu'au bout, il n'a pas eu le courage d'un calvulitaire de s'en prendre à la papauté, mais enfin, il est quand même à l'origine de la contestation évangélique qui conduira à la réforme. C'est la grande thèse de l'historiographie protestante. D'où des débats, évidemment. Vous imaginez que ça n'a pas laissé les catholiques indifférents. Et puis, donc, on redécouvre progressivement François tout au long du XIXe. Ozanam en 1852, dans la première traduction française des Fioretti. Beaucoup de gens commencent à faire le voyage d'Assise. Il y a donc un contexte favorable qui se met en place. Et puis, arrive le grand événement, 1894, la première biographie historique de François par Paul Sabatier. Un Sabatier, pasteur protestant libéral, et surtout disciple de Renan. Car Renan, ça paraît un peu étonnant, mais vous savez, Renan était un grand esprit, et il a vu, tout en étant essentiellement un bibliste, spécialiste des sémites, l'histoire, et il avait eu une intuition, des intuitions extrêmement justes. Il est le premier, vraiment en France, à avoir souligné, pas avec Ozanam, mais dans un autre contexte, l'importance et la grandeur de François d'Assise. Il y a des pages admirables, j'en cite quelques-unes dans le livre de Renan sur François, il a compris un tas de choses. Mais bon, Renan était quand même plutôt un orientaliste et un bibliste, donc il n'a pas poussé plus loin ses intuitions, et il a confié à un de ses disciples, donc ce fameux pasteur Sabatier, le soin d'étudier François, et Sabatier s'est mis au travail, et il sort en 1894 ce livre, qui est un livre très sérieux, très, très, très nourri d'érudition et de recherche, hein, c'est pas n'importe quoi, bien écrit dans le style de l'époque. Aujourd'hui ça nous paraît un petit peu, comment dire, romantique, mais un mauvais sens du terme parfois, mais enfin, bon, bien, ça a plu, ça a eu du succès, donc c'était à la fois érudit et agréable à lire, et c'est vraiment un livre qui a eu un succès énorme et qui a contribué à faire de François un personnage universellement connu. En particulier, c'est grâce à lui que François a débordé largement, l'audience de François a débordé largement le monde catholique. Son livre a fait l'objet de 31 éditions françaises entre 1894 et sa mort en 1927, donc c'est déjà pas mal. Et il a été traduit en toutes les langues de l'époque, l'anglais, l'allemand, etc. Le russe par Tolstoï, rien que cela. Donc c'est vraiment le grand livre du temps, qui a un succès énorme et qui provoque alors là vraiment un traumatisme, parce que la thèse de Sabatier c'était que bon, François est effectivement un homme totalement évangélique, etc., et qu'il avait été trahi, récupéré et trahi par la papauté, en particulier par le cardinal Hugolin, qui était son ami entre guillemets, mais qui en fait avait voulu utiliser au profit de l'Église romaine la force de frappe, comme on dirait aujourd'hui, que constituaient les frères mineurs qui connaissaient un énorme succès. Le cardinal avait compris qu'il fallait s'appuyer sur cette et utiliser pour le plus grand bien de l'Église cette nouvelle milice qui était en train de naître. Donc François aurait été en quelque sorte non seulement récupéré, mais trahi en partie, en tout cas au moins, par le cardinal Hugolin, et pas aussi par son biographe Thomas de Celano, donc le livre de Sabatier a aussi un caractère dramatique. Il y a les bons et les méchants, hein, alors il y a le bon Saint François, et un peu naïf, qui se fait manipuler, et puis il y a les grands manipulateurs, donc Hugolin est devenu ensuite le pape Grégoire VII, et puis Thomas de Celano, le premier biographe, qui écrit effectivement en 1228 la première vie de Saint François, et dans lequel Sabatier voit l'instrument des basses œuvres du cardinal Hugolin et du frère Élie, qui était le vicaire et successeur de François, enfin, pas pour longtemps, mais enfin, dans un premier temps, après sa mort. Et donc c'est une sorte de conspiration de ces deux hommes, dont Thomas de Celano a été l'instrument, qui aurait abouti à cette grande trahison de son message, contre lequel se serait élevé le frère Léon, parce que la grande thèse de Sabatier, c'est que la première vie de Saint François, en fait, c'était une vie qui a été écrite par le frère Léon, qui lui était le secrétaire de François, et donc qui l'avait suivi, et son plus fidèle témoin, disons. Et Sabatier, de bonne foi, a cru avoir trouvé la solution miraculeuse de tout le problème franciscain, parce qu'il a découvert à la bibliothèque Mazarine, donc pas loin d'ici, un manuscrit précisément d'un texte qui était l'œuvre de frère, ou inspiré par frère Léon, et sur lequel il y avait la date 1227. Alors, on voit tout de suite, évidemment, c'est presque trop beau. En 1227, frère Léon écrit ce texte. Ce texte est censuré ou éliminé. Et en 1228, on fait écrire une vie orthodoxe, entre guillemets, par Thomas de Celano, qui va reléguer celle de Léon dans une sorte de clandestinité. Voilà. Donc, oui, c'est un peu, comment dire, la thèse du complot. Ça a toujours beaucoup de succès, ce genre d'hypothèse. Quoi. Nous connaissons ça, nous avons encore connu ça récemment, hein, dans certains livres, un grand succès. Et mais Sabatier le faisait de toute bonne foi. Donc tout ça fait un énorme chambardement, que vous pouvez imaginer. Les franciscains, toutes obédiences réunies, se sont évidemment scandalisés. Le livre a été mis à l'index. Et on a commencé à se disputer sur les sources. Enfin, justement, les sources. C'est ce qu'on appelle la question franciscaine. La question franciscaine, c'est toute une polémique érudite, mais très violente, hein, parce que les érudits de l'époque, il n'y avait pas que le dos de la cuillère, ça traitait de tous les noms, d'oiseaux parfois même, dans des revues savantes. Et donc, on a commencé à se disputer, mais je dirais que c'est une dispute extrêmement féconde, parce que la provocation de Sabatier a obligé à sortir d'abord d'une Saint-François d'une optique purement catholique et confessionnelle et à affronter les problèmes posés par les autres, les protestants en particulier, Sabatier en l'occurrence, mais pas seulement lui, bien sûr. Voilà, donc tout un débat s'ouvre, un débat historiographique qui a duré. Qui a obligé à aller chercher des manuscrits. À ce moment-là, on se met à fouiller toutes les bibliothèques franciscaines d'Italie pour retrouver des manuscrits, pour faire des éditions critiques meilleures que celles qu'on possédait, ou parfois on n'en possédait pas du tout. C'était même le cas le plus général. Commencer à faire des véritables éditions critiques de textes qu'on connaissait, mais dans de mauvaises éditions. Donc, un énorme effort de travail, de recherche, qui a duré, on peut le dire, pratiquement jusqu'aux années 1960. On n'a pas fait que ça, mais ça a duré, ça a abouti aussi à la constitution même d'institutions de recherche, comme l'Institut historique franciscain de Quaraqui, ensuite Grotta Ferrata, la création de revues spécialisées, comme l'Archivum Franciscanum Historicum, etc. Donc, il y a eu véritablement un engagement dans la recherche assez extraordinaire, et qui progressivement, mais ça ne s'est pas fait en un jour, il a fallu au moins 50 ou 60 ans, a produit ses fruits. C'est-à-dire que, bon, maintenant il est certain que Sabatier s'est trompé, que le manuscrit qu'il a cru être une vie très précoce de 1227, n'est pas 1227, en fait c'est un fragment, mais très, très intéressant, très important, du Speculum Perfectionis, le miroir de perfection, qui est un traité d'inspiration spirituelle, qui a la tendance, la plus attachée à la pauvreté chez les franciscains au début du XIVe siècle, donc un texte de 1311, donc on est loin d'un texte de l'origine, on a un texte au contraire qui est d'un siècle postérieur à l'origine. Mais bon, tout ça, on ne l'a pas découvert du jour au lendemain, il a fallu faire de longues recherches, de longues études. Et encore tout récemment, il y a 6-7 ans, est paru un livre d'un chercheur italien, Raimondo Michetti, sur la vie de la première vie de François par Thomas de Celano, qui met bien les choses au point en disant « La vie de Thomas de Celano n'est pas du tout l'œuvre d'un homme servile qui serait simplement l'instrument des basses œuvres du frère Élie. » D'ailleurs, Thomas de Celano a essayé de donner une image de François qui soit acceptable par tous ses compagnons. Et par exemple, il n'hésite pas sur un point à contredire frère Élie. Il y a un point important, c'est sur les stigmates. Il présente les stigmates de façon tout à fait différente de frère Élie. Alors que deux ans avant, frère Élie avait immédiatement après la mort de François envoyé une lettre à tous les frères de l'ordre, une lettre encyclique pour leur parler, annoncer le miracle des stigmates. Il revient là-dessus 2 ans après, Thomas de Celano, courageusement, et dit non, c'était pas ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, quand même, ça prouve que ce n'est pas un homme servile. Il n'hésite pas à affronter, peut-être un grand mot, mais enfin à contredire, en tout cas, son supérieur le plus éminent. Voilà, donc tout ça pour vous dire, vous voyez, que ces débats sur les sources, ça paraît parfois un peu sibyllin ou un peu érudit, mais c'est fondamental, parce que si on n'est pas d'accord sur la chronologie des sources, si on n'est pas d'accord sur leur valeur relative, on peut très vite dire tout et n'importe quoi et s'éloigner en tout cas de la vraisemblance historique. Voilà. Enfin, c'est cette histoire que j'ai essayé de rétablir, enfin de raconter dans les grandes lignes, parce qu'il aurait fallu autrement déjà mon livre à 500 pages, on peut le trouver un peu long, si j'avais dû entrer dans tous les détails, et ça serait devenu illisible, donc j'ai été obligé de m'en tenir aux questions principales. Et puis, aujourd'hui, alors justement, on arrive à aujourd'hui, quelle idée nous avons de François? Alors d'un côté, nous avons une idée historique plus juste, je crois, grâce aux travaux qui ont été faits, nous arrivons à nous faire une idée plus précise de lui. Et d'un autre côté, il y a énormément de, je dirais, j'ai appelé ça des mythes. Alors des mythes, je ne voudrais pas, le mot peut peut-être paraître ambigu. Mythe, ça ne veut pas dire des choses aberrantes, c'est pas forcément. Le mythe inclut toujours une part de réalité, une vision mythique, elle ne part pas de rien, il y a quelque chose de vrai. Mais le mythe, souvent, construit ou isole, si vous voulez, un système de représentation ou de valeur autour d'une notion donnée. Alors, il y a des mythes. François a été utilisé au XXe siècle pour justifier toutes sortes de causes. Alors, parfois à bon escient et parfois à moins bon escient. Par exemple, ça paraît invraisemblable, mais lorsqu'on a dans les années 1926, il y a eu en Italie une véritable exaltation de Saint François par le régime fasciste. Oui, mais absolument, parce que c'est les moments dans les années 20 où l'Église et l'État essayent de se réconcilier en Italie, après la prise de pouvoir par Mussolini, et donc en 1926, il y a donc le septième centenaire de la mort de Saint François. Il y a eu d'énormes festivités à Assise, bien sûr, auxquelles a participé le roi d'Italie, les plus hautes autorités du pays. Et à ce moment-là, on commence à entendre un discours assez étonnant. Mussolini dit, par exemple, François, le plus saint des Italiens, le plus italien des saints. Oui. Donc, une exaltation nationaliste de François d'Assise. Et d'un autre côté, l'Église s'y est prêtée volontiers dans la mesure où elle cherchait à se rapprocher de l'État, ce qui aboutira en 1929 au fameux accord du Latran et au Concordat entre Pionce et Mussolini. Eh bien, donc voilà, on a un François nationaliste, pas le plus italien des saints, peut-être, on finit par placer on fait de lui aussi un croisé, alors quand l'Italie conquiert l'Abyssinie, l'Éthiopie, en 1935, on place ça, on appelle ça la croisade franciscaine, parce que ce sont les franciscains qu'on envoie pour convertir des gens qui étaient d'ailleurs en grande partie chrétiens, enfin, c'est un autre problème. Voilà, bon, il y a des visions comme ça, et qui sont un peu mythiques. Alors, il y en a d'autres qui ont des racines plus solides. Il y a d'abord le François social. Bon, on a fait le François, de façon là aussi consciente et volontaire, à partir de la fin du XIIIe siècle, une sorte de fondateur du christianisme social. Le pape Léon XIII lui-même a encouragé énormément le développement du tiers-ordre franciscain, présenté comme une sorte d'antidote au syndicalisme d'aspiration anarchiste ou révolutionnaire, ou même simplement socialiste. Donc on insiste sur un François proche du peuple, ouvert aux pauvres, etc. Et on retrouve, alors dans une perspective différente, mais on retrouve aussi François comme modèle, la figure emblématique de la théologie de la libération, dans les écrits de Leonardo Boff dans les années 70-80, qui, avec des fondements d'ailleurs tout à fait sérieux, enfin, rien de farfelu, on peut en discuter, mais il y a des aspects là tout à fait valables. Et puis d'autres lectures, alors la lecture évidemment écologiste, qui aujourd'hui est très à la mode, avec là aussi une part de vérité, une part d'ambiguïté, c'est-à-dire que François a certainement un rapport direct avec les animaux et avec la nature, la création. Mais en même temps, faire de lui le patron de l'écologie, ça peut avoir un sens, mais ça peut aussi être discuté, parce qu'il n'y a pas du tout chez lui cette vision catastrophiste qui inspire beaucoup d'écologistes aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut, l'homme doit apprendre à gérer le monde, les ressources naturelles, mais il n'y a pas du tout chez François cette espèce d'idée d'un monde voué à la destruction par la pollution ou par la consommation excessive d'énergie, etc. Donc, voilà. Et puis, dernière vision, dernière interprétation, c'est François comme artisan de paix. Patron de la paix. Alors là aussi il y a quelques bonnes raisons, puisque François, un des aspects les plus originaux de la pastorale, de l'action de François, c'est son engagement en faveur de la paix dans le monde de son temps, mais aussi de la paix. Alors on a fait de lui, vous le savez, on a fait d'Assise le lieu de rencontre des religions. C'est Jean-Paul II qui a pris l'initiative, se rencontrer à Assise les représentants de toutes les religions du monde pour la paix, pour prier ensemble pour la paix. Hein. Et ça a été, il y a eu deux rencontres de ce genre. Hein. Donc c'est intéressant, pourquoi Assise et pas Rome? Et bien parce que beaucoup de ces religions, de représentants de ces religions, ne seraient probablement pas venus à Rome, qui reste malgré tout pour beaucoup un symbole de puissance, etc. Mais ils ont accepté de venir parce que c'était à Assise. Et donc, ça prouve qu'il y a une vocation particulière, effectivement, de François à la paix. Et on a beaucoup développé, alors, ces dernières 20 ou 30 années, la dimension paix entre les religions, et en particulier dans les relations entre chrétiens et islam, puisque François est effectivement, là c'est pas de l'ordre du mythe, c'est de l'ordre de la réalité historique, probablement le premier chrétien qui soit allé spontanément et sans armes, essayer de dialoguer avec le sultan d'Égypte. C'est tout à fait historique, c'est pas une légende, pour le convertir, mais le convertir sans agressivité, sans attaquer immédiatement l'islam et Mahomet, essayer de trouver un terrain d'entente entre les religions chrétiennes et musulmanes. Donc là aussi, il ne faut pas... Le danger, si vous voulez, de ces lectures, c'est que il faut toujours se méfier de l'anachronisme. Hein. Un saint du XIIIe siècle peut très bien être actuel encore pour aujourd'hui, nous inspirer, mais il ne faut pas vouloir absolument qu'il ait vécu comme nous. Pas les problèmes n'étaient pas les mêmes, la situation n'était pas les mêmes. Donc méfions-nous des anachronismes et des lectures simplificatrices. Par exemple, on dit, y compris des gens célèbres ou importants ont écrit que François était contre les croisades. Nous n'en savons rien. Il a participé à une croisade, il a rejoint une croisade, bien sûr qu'il n'a pas participé militairement, mais il a rejoint une croisade à Damiette. nous n'avons pas de preuve qu'il ait été contre les croisades. Ben, il a probablement pris conscience sur place que la croisade n'était pas finalement ce qu'il espérait ou ce qu'il avait imaginé, et que le déploiement de la force n'était pas la solution au rapport conflictuel entre chrétiens et musulmans. Mais de là à dire qu'il était hostile aux croisades, ça nous fait plaisir de le dire, mais c'est pas forcément vrai. Il pouvait très bien penser que d'un côté, comme beaucoup de personnes de son temps, y compris les meilleurs esprits, qu'il fallait dialoguer avec l'islam, mais que d'un autre côté, comme l'islam refusait le dialogue, eh bien, il fallait d'abord commencer par briser sa puissance militaire de façon à les obliger, en quelque sorte, à discuter. Enfin bon, là c'est pour vous dire qu'il faut toujours se méfier et des rives, c'est pour ça que j'ai parlé de mythe. Voilà. Et enfin, dernière partie, la quatrième, donc la fameuse quatrième partie, je me suis permis de faire. Alors, on aurait pu s'attendre, après cet exposé justement sur les lectures divergentes de François, les images, les mythes, la quatrième partie, normalement, ça devrait être finalement, qui est le vrai François. Mais là aussi, je me suis un peu refusé cette facilité de vous dire maintenant je vais vous dire qui est le vrai François, ce serait trop facile. Parce que, bon, je pense que on peut dire des choses sur François, mais qu'il est peut-être encore un peu tôt pour essayer de refaire un nouveau portrait de François. Et puis c'est plus tellement comme ça que l'histoire procède. Pas, comme le dit un exégète, les progrès de l'exégète aujourd'hui, ça ne consiste pas à dire plus sur Jésus, mais à découvrir qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire. Vous voyez. Donc je crois que sur François, c'est un peu pareil. Il ne s'agit pas de rajouter un portrait à d'autres, mais il faut savoir ce qu'on peut encore vraiment dire valablement, et il y a beaucoup à dire, mais ne pas essayer de lancer un nouveau modèle. Et donc, alors je suis parti là des écrits de François, donc là on a une base sûre, solide, qui n'a pas toujours été assez exploitée, parce que ces écrits... D'abord, ils ne sont pas surabondants, et en plus, ils sont parfois d'interprétation un peu difficile, d'abord de datation difficile, on ne sait pas très bien, on a une série de lettres qu'on arrive à dater à deux ou trois ans près, mais on ne sait pas exactement dans quel contexte, ça pose énormément de problèmes, et tous les problèmes ne sont pas résolus. Et puis, dans ses écrits, François ne parle pas de tout, mais enfin, on peut partir de là. Partir de là, et partir aussi de la géographie dont j'ai essayé de montrer qu'il y avait, à condition de l'apporter avec prudence et avec une certaine réserve, qu'on pouvait quand même en tirer quelque chose. Et donc j'ai insisté pour finir sur quelques points forts à partir desquels il me semble qu'on peut se faire une idée du vrai François. Donc je pense qu'il ne faut pas d'abord partir de l'expérience de Dieu et partir du fait que François est d'abord au plus haut point un homme habité par Dieu, mais que cette familiarité avec Dieu, elle est partie d'une modification de sa relation avec les hommes. C'est lui-même qui dit dans son testament, par la rencontre avec les lépreux, a été à l'origine de ce que j'ai appelé ça, son retournement. C'est à partir du moment où il a pris conscience que il n'était pas différent des lépreux et que dans le lépreux il a retrouvé le visage du Christ, que à ce moment-là il a découvert Dieu. Donc rapport à Dieu et rapport à l'homme, les deux sont liés. Rapport à l'écriture aussi, là c'est tout le paradoxe de François qui est un homme qui est un laïc, qui n'a pas fait d'études, qui sait lire, écrire, mais qui n'a pas été dans des écoles de théologie ou autre. Et qui, au fond, ne connaît la Bible, il n'a jamais eu de Bible, il n'avait qu'un bréviaire, il connaissait la Bible à travers la liturgie. Donc il s'est imprégné de Bible, il savait par cœur, comme beaucoup d'hommes de cette époque qui n'avaient pas l'esprit encombré par la lecture des journaux ou par la télévision, il savait par cœur des livres entiers de la Bible. Et donc, à force d'être imprégné par la liturgie, il le savait par cœur, les psaumes, par exemple, ou un certain nombre de textes bibliques, évangéliques. Et donc, à travers ce rapport qu'il établit avec la parole de Dieu, se crée un nouveau rapport, justement, de type existentiel. Pour lui, la parole de Dieu, c'est pas quelque chose à écouter, c'est quelque chose d'abord à mettre en pratique. Et il a des mots très durs sur les prédicateurs qui se contentent d'inviter les autres à être meilleurs et qui ne se sentent pas concernés au premier chef par ce qu'ils disent. Il faut que, chez François, l'essentiel, c'est l'adéquation entre le dire et le faire. On est un imposteur tant qu'on se contente de dire, et si le dire et le faire ne vont pas du même pas, n'avancent pas du même pas, ce n'est pas valable. Alors, on aurait pu penser justement que François, qui fait une lecture très très directe, sans aucune exégèse, sans aucune glose de la Bible, aurait pu, comme beaucoup de laïcs de son temps, disons glisser ou tomber dans le fondamentalisme, la littéralisme. On prend les mots un par un ou les phrases une par une et on en fait on en fait un absolu. Vous voyez. Mais chez lui, justement, ce qui est remarquable, c'est que bien qu'il n'ait aucune culture biblique, encore une fois, de type scolaire, il a non seulement une approche engagée de la parole de Dieu, mais aussi une approche, je dirais, purement spirituelle. Spirituelle en ce sens, non pas opposée à concret, mais opposée à littéral. C'est-à-dire que si on veut avancer dans la compréhension de la parole de Dieu, eh bien, il faut le faire spiritualitaire, il faut le faire en esprit. C'est-à-dire se référer, non pas utiliser la parole de Dieu contre les autres, mais toujours se référer à soi-même. Hein, ne s'en prendre qu'à soi-même si on n'est pas à la hauteur de la parole qu'on propage, qu'on profère. Donc, non pas absolutiser la parole et l'utiliser comme une arme contre les pécheurs ou les hérétiques ou les incroyants ou les musulmans, mais faire toujours la confrontation entre cette parole et soi-même. Donc une approche engagée et existentielle de l'Écriture sainte. Autre point, évidemment, je l'ai déjà évoqué, son rapport avec la nature et l'univers, donc qui n'a rien à voir avec le panthéisme ou avec la sensiblerie un peu mièvre qu'on lui prête parfois. En fait, ce qui est là aussi original chez François, c'est son refus de prendre parti de la coupure que la philosophie était en train d'établir, le mouvement intellectuel, disons, de l'époque, était en train d'établir entre l'homme et la nature. Pour lui, il n'y a pas de coupure au sein du règne biologique entre le monde animal et le monde humain, et même la création, les pierres, les astres, tout cela participe d'une même vision globale, une approche proprement réaliste de la création et non pas symbolique, sur lequel il jette un regard christique, un regard d'adoration. On peut parler d'une sorte de messe sur le monde à propos du cantique de Frère Soleil. Et enfin, dernier point, parce que le temps passe et j'ai été trop long, François et l'Église, c'est un gros problème, qu'on peut résumer en disant le charisme dans l'institution, c'est-à-dire que François est absolument convaincu d'avoir été appelé par Dieu, il le dit dans son testament, et personne ne montra ce que je devais faire, hein. Donc il n'a pas reçu de leçon, si ce n'est précisément un appel du Seigneur, mais il n'est pas pour autant, il ne se place pas pour autant en dehors de l'institution. Il a à la fois une haute conscience de son aspiration personnelle et en même temps le fait qu'il a reçu le Christ de l'Église. Pour lui, il n'y a pas d'autre voie que celle-là. L'Église n'est pas pour lui une institution, avant tout, c'est quelque chose qu'il faudrait critiquer ou attaquer. De l'Église, il reçoit la parole de Dieu et les sacrements, et donc il ne peut pas, pour lui c'est impensable, d'opposer le Christ et l'Église. Ben, ce qui n'empêche pas d'être très sensible, on le voit très bien, aux faiblesses du clergé de son temps, ou d'entrer en conflit parfois avec l'institution sur tel ou tel point, mais il ne remet pas en cause pas l'identité du Christ et de l'Église, une approche christologique, disons, de l'Église. Ce qui ne l'empêchera pas, encore une fois, de souffrir par l'Église, en particulier lorsque la papauté l'obligera à institutionnaliser son ordre, enfin sa fraternité, pour en faire précisément, autour de 1220, un ordre religieux. Voilà, et un dernier point, parce qu'il faut quand même conclure, j'ai aussi relevé, enfin étudié le fait que, justement ayant beaucoup vécu en Italie, j'étais très sensible à cette imprégnation profonde de la civilisation, de la culture italienne par le franciscanisme. Hein, François a été véritablement un médiateur culturel, par exemple. Dans la mesure précisément où il avait cette double culture, il était à la fois un laïc et en même temps il avait acquis une culture biblique tardivement, mais enfin il l'avait acquise. Il avait donc une double appartenance qui était exceptionnelle à l'époque, parce que ou bien on était clair et on savait lire le latin et on accédait au texte, ou bien on était laïc et on était illiteratus. C'est-à-dire incapable de lire le latin, de comprendre le latin. Bien, donc lui est à l'intersection de ces deux cultures, la culture cléricale et la culture laïque, et il va être un passeur entre les deux. Hein. Il va en particulier, faire passer dans la culture populaire italienne un message religieux fondé sur l'amour et sur la sensibilité. On peut dire qu'il a libéré la sensibilité populaire qui jusque-là ne trouvait pas à s'exprimer, qui était considérée comme quelque chose de qui était vécu peut-être au niveau des personnes, mais qui n'avait pas d'expression littéraire ou formelle, qui n'était pas formalisée. Et donc il va être l'inspirateur, lui et puis ses fils spirituels, ses successeurs, bien sûr, ça va se prolonger ensuite pendant des siècles, de tout un mouvement. Il va être à l'origine d'une littérature religieuse, de chants par exemple, de cantiques, ce qu'on appelle en italien les laudi, ce sont des cantiques populaires en italien, donc en langue vulgaire, il y a un anoblissement de la langue vulgaire. Il est probablement le premier homme à avoir osé s'adresser à Dieu en langue vulgaire. Cantique des créatures, c'est un texte en langue vulgaire. On ne parlait pas à Dieu, on ne parlait à Dieu qu'en latin. Donc il y a un pas en avant considérable. Il brise un tabou. On peut s'exprimer, même si on ne sait pas le latin, on peut s'exprimer, on peut parler à Dieu, on peut parler de Dieu, de la Vierge, des saints. Ça donnera naissance à toute une littérature religieuse et je dirais même à une culture populaire méditerranéenne. Qui est justement axé sur les mystères joyeux, douloureux, le Vendredi Saint, la Passion, la Résurrection, tout un théâtre liturgique, ce qu'on appelle en italien la Sacra Rappresentazione, les grandes processions. On a encore vécu là-dessus en Italie jusqu'au milieu du XXe siècle, et même encore dans certaines régions, c'est encore vivant aujourd'hui, oui. Donc, une culture fondée sur l'expression dramatique et lyrique du sentiment religieux, qui enrichit véritablement à la fois la culture religieuse et la culture populaire. Donc un personnage de tout premier plan, qui, alors, et c'est peut-être cette dernière caractéristique que je conclurai, ce qui le différencie de beaucoup d'autres héros de l'histoire, c'est qu'il ne nous intéresse pas seulement pour l'influence qu'il a pu avoir de son temps, qui est considérable, mais parce que justement il n'a pas cessé d'intéresser, de susciter des réactions tout au cours des siècles. et même encore plus aujourd'hui que jamais. Aujourd'hui, peut-être justement parce que nous sommes dans une culture qui traversée par de nombreuses interrogations, et puis dans une civilisation où on s'intéresse beaucoup, après les crises économiques, sur la consommation, la richesse, la pauvreté, enfin, tous ces problèmes qui sont au cœur de l'expérience franciscaine, on peut considérer justement François comme un personnage exceptionnel à cause de ce que un historien italien, qui est venu d'ailleurs ici parler il y a 2 ou 3 ans, Grado Merlo, il a parlé à propos de François d'une force de contemporanéité. L'expression n'est pas très belle, mais vous savez bien ce que ça veut dire. C'est un personnage qui, bien qu'il ait vécu au Moyen-Âge, est encore intéressant pour nos contemporains. Et ce qui est quand même assez exceptionnel, parce que c'est rare que, même si on trouve des personnages historiques sympathiques ou intéressants pour leur biographie, c'est quand même rare qu'on considère qu'il est encore un message à nous délivrer. Ouais. Et je pense que dans la mesure justement où le message de François n'a pas été totalement reçu de son temps, de son vivant, une bonne partie du message est tombé dans la trappe parce que les esprits n'étaient pas prêts pour le recevoir, et bien aujourd'hui, toute la partie non reçue de ce message revient en force et nous concerne. Voilà. Merci de votre attention.
Petit quart d'heure peut-être pour poser quelques questions. On est très heureux d'abord de voir autant de monde ce soir. Et on en est très heureux pour André Vaucher et de conclure cette année franciscaine avec lui. Hein, c'est vraiment une. Et tout à l'heure, André Ménard, il y a beaucoup d'André ce soir. André Ménard, vous disiez, vous rappelez le lien avec la bibliothèque. Je vous dis qu'André Vaucher ce soir, il est venu avec dans sa serviette des livres pour la bibliothèque. Hein, il a sorti de sa bibliothèque. C'est pas la première fois que vous le faites. Moi, j'y suis extrêmement sensible. Des questions, alors? Je vous le mets bien haut.
Absolument. Alors, ce que j'ai appelé culture laïque, c'était pour faire bref. Hein.
Alors. Et ce que je veux dire, c'est qu'il s'exprime avec ce vocabulaire, et quelquefois, c'est un peu difficile, parce qu'on n'a pas les clés
tout à fait.
De compréhension, puisque cette culture, c'est étrangère.
Oui, tout à fait. Alors, c'est justement là le personnage de François a quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'il est de milieu bourgeois. Son père, marchand de drap, donc c'est un bourgeois, mais un bourgeois riche, un bourgeois enrichi, fils de riche, et donc il veut vivre comme les nobles, et quand il est jeune. Il aspire à vivre noblement, et il est absolument emballé par la littérature chevaleresque et courtoise qui est arrivée de France en Italie à la fin du XIIe siècle, les aventures de Roland, Arthur, le roman arthurien, bientôt le Lancelot, le Graal, etc. Bon, tout ça arrive en Italie suscite l'enthousiasme justement de cette jeunesse dorée à laquelle appartient François, qui d'ailleurs sait par cœur lui aussi des poèmes en français, comme aujourd'hui beaucoup de jeunes chantent des chansons en anglais sans savoir forcément l'anglais. Mais le français, c'était la langue de la poésie et de la chanson à l'époque. Oui. Donc, il est bourgeois, il a une culture de type aristocratique parce qu'il voudrait devenir noble. Et puis, bon, ses rêves de grandeur s'effondrent lorsqu'il renonce à partir, finalement, est obligé à une expédition militaire qui lui aurait procuré la gloire des armes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il avait rêvé au départ. Et à ce moment-là, donc, commence son entreprise de conversion, de retournement, qui lui permet d'acquérir une certaine culture biblique, essentiellement à base liturgique, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il est un peu la charnière, oui, de plusieurs cultures. Alors, vous avez raison, il n'est pas populaire, il n'est pas paysan, il n'est pas partisan, hein, mais il va faire un énorme effort pour, je dirais, pour populariser tous ces thèmes. Hein. Par exemple, le thème de la chevalerie, de la largesse, bien, il lui donne justement, il ne s'est jamais renié, François, il a élargi sans arrêt ses horizons. La largesse, ça consiste à ne pas thésauriser. Pas thésauriser, on a des biens, on les dose, on les distribue, mais dans l'éthique chevaleresque, on les distribue uniquement à des gens de son propre milieu. Ben, le seigneur donne des biens, des richesses, des beaux habits à sa cour, aux gens qui l'entourent, qui vont avec lui, qui sont du même monde. François, son idée, son intuition fondamentale, c'est que il faut élargir cette charité, élargir cette largesse à l'ensemble des hommes, y compris et surtout les plus démunis et les plus pauvres. Oui. Donc, il part d'une vision aristocratique de type presque féodal pour arriver finalement à une sorte de vision universaliste qui embrasse et qui privilégie même les plus démunis. Oui. Donc, il est, comme je le disais, un passeur entre les diverses strates culturelles de son temps. Absolument. Je croyais l'avoir dit, mais je n'ai pas été assez clair. Il est le premier à avoir utilisé l'italien qui n'existait pas. L'italien, c'est pas... Il n'y avait pas d'italien, mais c'est Dante qui, un siècle plus tard, a inventé la langue italienne, qui en fait était du toscan, qui est devenu, grâce à Dante, l'italien. Mais il existait quantité de dialectes, le dialecte d'Ombrie, le dialecte toscan, le dialecte de Pouille, etc. Mais ce n'était pas des langues, c'était une espèce de patois, qui n'avait pas, il n'y avait pas de littérature, ou pratiquement. La situation était différente de celle qu'on connaissait en France, où il y avait déjà une littérature de Languedoc, de Languedoc, dès le XIIe siècle. En Italie, le latin était tellement encore présent et un peu écrasant que la langue vulgaire, c'était vraiment uniquement une langue parlée. On n'écrivait pas l'italien. Vers 1200, après ça changera. Mais du vivant de François, on n'écrit pas l'italien. Bon, lui, non seulement il écrit, mais il s'adresse à Dieu en italien, ce qui est quelque chose de... Enfin, pas en italien, en dialecte ombrien d'Assise. C'était encore plus modeste, parce qu'il n'y a même pas eu de langue, c'est un patois. Mais à ce moment-là, ça donne cette langue une noblesse extraordinaire, et ça va aider, permettre l'affirmation de l'italien comme avec. Je crois qu'on peut dire que François d'Assise puis Dante sont les inventeurs de la langue italienne. C'est au fond ce que fera Luther pour l'allemand. Enfin, Luther a fait mutatis mutandis, hein. Mais la même chose pour la langue allemande, qui est une langue... D'abord, il n'y avait pas une langue allemande, il y avait 36 variétés d'allemand, et c'était une langue méprisée, mal considérée, même par les humanistes de son temps. Et il fait de l'allemand une langue religieuse. D'abord, il traduit la Bible en allemand, et ensuite, il y a toute la filière jusqu'à Jean-Sébastien Bach de la méditation chantée en allemand, les cantates, les chorales, les choraux, etc. Oui. Donc, Luther fera de l'allemand une langue religieuse, mais elle n'était pas du tout une langue religieuse en son temps. Oui. Ben, François a fait la même chose avec l'italien 3 siècles avant. Oui, oui, absolument. Ce n'est pas une culture livresque. Absolument. Tout à fait. Oui. Vous avez raison. Non, tout à fait. C'est pas une culture livresque. Il avait simplement appris à lire et à écrire à l'école cathédrale d'Assise. Il se préparait à être un bon marchand. Le marchand devait savoir faire ses comptes, être capable de rédiger un petit contrat. Bon, mais c'était, ça n'allait pas plus loin. Il n'est pas. Et puis il allait à l'église, donc il avait déjà entendu effectivement des textes liturgiques avant de se convertir. Mais à ce moment-là, évidemment, À partir du moment où il cherche sa voix, il se met à écouter, à lire des textes évangéliques avec beaucoup plus de passion qu'avant, parce qu'il y cherche une réponse à ses interrogations. Mais sa connaissance de la Bible est liturgique. Il n'a probablement jamais possédé de Bible. Il en existait très peu à l'époque. Alors, il savait le latin, si on veut, il le comprenait, mais quand il commence à l'écrire, il fait 3 barbarismes par phrase. C'est pas grave. Mais bon.
Quel est son rôle en réalité? Est-ce que véritablement Frère Rémy est le destructeur, plus ou moins ce que le spirituel disait, l'esprit franciscain, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé de rendre le franciscanisme quelque chose de possible au plus grand nombre, dans un premier temps? Et deuxièmement, plutôt que de parler du fait que François a été berné par le pape, est-ce qu'on ne peut pas parler pour François d'une désappropriation progressive de son ordre? Il se désapproprie de son ordre, il le laisse vivre par lui-même.
Alors, sur le dernier point, je commencerai par là, oui et non, c'est-à-dire que François, bon, en 1220-21, quand il revient de Terre Sainte, donc la papauté l'oblige, il n'y a pas... à institutionnaliser sa fraternité qui, en son absence, avait été un peu chahutée dans tous les sens. Voilà. Bon, François accepte ce processus d'institutionnalisation, mais en même temps, c'est contraire à son tempérament. Et à ce moment-là se produit, de façon consciente et volontaire, un processus de dédoublement. C'est-à-dire que François, on dit démissionne, mais il se retire. Personne ne l'avait jamais élu, donc il avait besoin de démissionner. Il était le chef du mouvement, puisqu'il en était l'origine, mais il n'avait pas une fonction élective, il n'était pas président ni supérieur. Bon, il se retire. Il renonce à diriger son mouvement et il le transmet donc d'abord à Jean Parenti, puis à Frère Rémy, pour tout ce qui est des rapports, disons, avec la papauté, avec des rapports internes aussi, l'administration de l'ordre, si vous voulez. Mais il ne se retire pas pour autant, il continue quand même à jouer un rôle ici. D'exemplarité. Alors attention, je ne vais pas dire qu'il était orgueilleux au point de penser qu'il n'y avait que lui qui incarnait la vision franciscaine, mais il se place, non pas légèrement en marge, disons, de la vie institutionnelle de l'ordre, de façon à rester une référence purement spirituelle. Donc l'ordre se trouve dans une situation un peu curieuse, mais que d'autres ordres religieux ont connu aussi au Moyen-Âge parfois, avec d'un côté un chef, disons un supérieur hiérarchique, hein, et de l'autre côté un chef charismatique. Voilà. Et la preuve que c'est quand même lui qui reste le vrai chef, c'est que lorsque la règle est promulguée et approuvée finalement en 1223 par la papauté, la lettre du pape s'adresse à Frère François. Et Frère François, donc, Élie est là, assure les affaires courantes, mais c'est François qui est considéré quand même par tous comme le vrai chef de l'ordre. Oui. Donc on ne va pas dire qu'il prend ses distances par rapport à l'ordre, mais il se place, et il considère que l'institutionnalisation étant irréversible, il faut qu'il reste, lui, comme une sorte d'exemple, et c'est à ce moment-là qu'il redouble aussi d'austérité, d'ascétisme, etc., de façon à laisser à ses frères une image, parce que là encore on fonctionne, on parlait tout à l'heure d'audition, François n'est pas du tout un intellectuel, il fonctionne par audition et image, par l'ouïe et la vue, et donc il faut que les frères conservent de lui une certaine image, et que cette image devienne normative. Et alors c'est pourquoi d'ailleurs qu'une fois que la règle sera promulguée, eh bien il écrira le testament. Parce que le testament n'est pas une autobiographie, pas du tout, Le testament, c'est simplement un mode d'emploi de la règle. Donc il y a la règle, d'accord, très bien, mais la règle doit être vécue en fonction du testament. Et c'est ce binôme règle-testament que Grégoire IX va casser 2 ans après la mort de 4 ans après la mort de François en 1230. Grégoire IX, répondant aux interrogations des frères mineurs, répond que le testament n'a aucune valeur juridique, n'a aucune valeur d'obligation, et que donc la règle, oui, et le testament, non. Donc le testament exprime des idées nobles et généreuses de François, mais n'a aucun caractère d'obligation pour les frères. Oui. Or, François concevait, de même qu'il concevait son rôle comme parallèle à celui de frère Élie, de même la règle et le testament devaient aller ensemble comme la norme et le mode d'emploi. Voilà, donc c'est un rapport très particulier, une sorte de double hiérarchie, mais qui n'aura pas de lendemain évidemment, parce que c'était lié à la personnalité exceptionnelle de François. Alors après, alors Élie, c'est un personnage très controversé, ça a été longtemps le traître absolu, l'homme qui avait, il suffit de lire Salim Bene, qui en dit le plus pique-pendre, hein, déjà à l'époque, donc, et les spirituels par la suite. Donc c'est ça serait le grand traître. Enfin, en fait, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, enfin, depuis une trentaine d'années, là aussi, on est pas mal revenu là-dessus. Il y a eu des travaux sur frère Élie en Italie intéressants. En fait, Élie se trouve, il revient vraiment au pouvoir comme ministre général en 1232, et il va essayer de défendre, je dirais, la composante laïque de l'ordre franciscain. Parce que le grand problème dans les années 30 et suivantes, c'est que l'ordre est de plus en plus attractif sur les clercs, exerce une attraction très forte sur les clercs, sur les intellectuels, ou des gens même passés par les universités, ou les écoles en tout cas. Et donc il y a un déséquilibre qui se crée, enfin, en tout cas un nouvel équilibre qui se crée au sein de l'ordre, qui était majoritairement laïque au départ et qui est en train de devenir très rapidement un ordre clérical. Alors, plus ou moins habilement, Élie essaie de conserver cette dimension fondamentalement paritaire et majoritairement laïque de l'ordre franciscain tel qu'il était du vivant de Saint-François. Oui. Ce qui va évidemment le faire mal voir des frères lettrés, et à la fin éclate une grande crise, et Élie est déposé, et ce sont justement les frères passés par les écoles, en particulier les écoles parisiennes, qui vont prendre le pouvoir dans l'ordre, et en 1240, 1241, décider que désormais on ne recrutera plus de frères laïcs chez les frères mineurs, ce qui est quand même évidemment le monde à l'envers. C'est un personnage ambigu qui a certainement été très attaché à la figure de François, et donc il a fait construire la basilique en l'honneur de François d'Assise, ce qui l'a obligé, comme il a voulu faire la basilique la plus belle et la plus moderne pour l'époque, faire appel aux meilleurs artistes, aux meilleurs architectes, etc. C'était un chantier absolument fantastique, le plus grand chantier de l'Europe à l'époque, d'un point de vue architectural et monumental. Donc tout ça coûtait beaucoup d'argent, donc il a été obligé de faire des compromissions que, disons, ceux qu'on appellera plus tard les spirituels lui ont reproché. Et en même temps, donc il a été attaqué sur deux fronts. Il a été attaqué par les tenants, disons, de la pauvreté absolue, et il a été attaqué de l'autre côté par les clercs, et donc finalement il a perdu. Voilà. Donc d'où son mauvais. Alors évidemment, et en plus il a empiré les choses en se ralliant à l'empereur Frédéric II au moment où celui-ci venait d'être condamné, excommunié par le pape. Grégoire IX précisément. Donc il a fait tous les mauvais choix et il en est résulté une image noire. Mais le personnage est probablement beaucoup plus complexe. Il y a quand même un critère qui ne trompe pas, c'est que Claire d'Assise a toujours considéré Élie comme une personne de confiance. Dans les lettres de Claire, elle dit, elle écrit à Agnès de Bohême, tu peux faire confiance à Élie, alors qu'elle lui laisse entendre qu'il faut se méfier beaucoup du pape.
Question, peut-être. On arrête là, peut-être. J'ai encore deux, trois petites choses à vous dire. D'abord, vous parlez d'un colloque. Ce qui est assez remarquable et beau, c'est que dans le cas d'André Rocher, il y a André Rocher, mais il y a aussi les élèves d'André Rocher. J'ai l'impression qu'ils forment une amitié, qu'ils se réunissent, et je crois que parmi les médiévistes en France, il y en a une bonne part qui sont parmi les plus grands, qui sont les anciens élèves d'André Rocher. Et ils se réunissent en votre honneur, André Rocher, à la Fondation Synodelle du Cap, dans le 8e arrondissement.
Oui, c'est ça, c'est près de. C'est au métro Courcelles.
Métro Courcelles. Du 30 novembre au 2 décembre, donc c'est lundi prochain,
c'est de lundi et mercredi.
Et ils vont évoquer un peu tous les thèmes qui vous sont chers et qui ont fait un peu toutes vos recherches. Le colloque s'intitule « Chemin de perfection, expérience religieuse dans l'Occident médiéval ». Si vous voulez consulter ce programme, il est ici. Je vous signale que dessus, vous le voyez peut-être, il y a le fameux quadrilobe qui existe en deux exemplaires à Paris. C'est celui de...
Non, je crois que c'est pas celui de Louvre.
C'est celui de Cluny, hein, puisqu'il n'a pas son pied. Et qui représente, c'est une des plus anciennes représentations de François d'Assise, nimbé. On dit que c'est une production du Limousin de 1228. C'est comme ça que le disent les historiens de l'art.
Vers 1230, ça paraît précoce.
Ça paraît très précoce, voilà.
Après les spécialistes.
Donc ce colloque autour d'André Rocher. deuxième chose... Le livre d'André Rocher, hein, j'imagine que sa communication, sa conférence vous a donné envie de découvrir, de le lire. Il y a un certain nombre d'exemplaires qui sont au fond de la salle. André Rocher dédicacera.
Volontiers,
hein, voilà.
Ça peut intéresser.
Et puis une dernière chose, vous pouvez continuer à nous aider si vous voulez qu'il y ait de futurs André Rocher dans les années qui viennent. Ah, oui. Il faut qu'il puisse venir travailler dans nos bibliothèques. Rappelez-vous qu'il y a l'association des amis de la bibliothèque, vous pouvez nous aider, c'est pas grand-chose, mais ça, au fur et à mesure, on progresse au niveau du nombre d'associés, de gens qui font partie de l'association. Il y a aussi la revue Études franciscaines, vous savez qu'elle est en grande partie fabriquée ici. Encore une fois, André Rocher, vous avez été le premier à donner un texte à Études franciscaines. Je crois que ça a fait beaucoup pour la renommée de cette revue qui a été relancée donc l'année dernière. Le premier fascicule est paru en juin, le deuxième va paraître en décembre. Là encore, il faut nous aider. On n'a manifestement pas assez d'abonnés. Et si vous voulez qu'on puisse tenir le coup, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Mais il faut trouver des abonnés. Il faut qu'il y ait autour de vous, qu'il y ait des gens riches qui s'abonnent. Mais André Rocher, nous souhaitons rester en contact avec vous.
Merci.
Et encore une fois, nous vous remercions.
Réciproquement.
Merci.